7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins, bienvenue dans les villes intelligentes. Plus de tickets de bus, ça se fait avec le smartphone. La climatisation se déclenche, il suffit d'arriver dans un lieu, tout comme l'éclairage public. Il suffit de poser un pied sur le trottoir, plus d'embouteillages, les conducteurs sont guidés en fonction du trafic. Bref, imaginez un petit peu une ville construite par Google, des villes ultra connectées, ou si vous avez une panne de smartphone et d'internet, évidemment là vous êtes mort, ça fera sourire certains voisins qui survivent au délestage. De l'Asie à l'Amérique, de nombreuses villes, en tout cas du monde, se sont lancées dans la course éperdue de la ville ultra connectée pour endiguer les maux de la ville: sécurité, pollution, déchets, embouteillage, dépenses d'énergie. Mais pour servir quels objectifs et quel bien-être dans le fond? Ces villes intelligentes peuvent-elles se développer dans les pays pauvres? Et puis, ne s'agit-il pas finalement d'une grande utopie urbaine du 21e siècle? Nous allons en parler avec nos invités. Gérard Wolf, bonjour.
Bonjour.
Vous appartenez au MEDEF International, vous êtes vice-président du comité Afrique et vous êtes président d'une task force qui est dédiée aux villes durables. Et on verra la différence entre villes durables et villes intelligentes. Et vous êtes aussi ancien directeur international d'EDF. Éric Le Gall, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'ICI Média. Vous travaillez à rendre plus intelligente la ville d'ICI Les Moulineaux, précisément là où notre studio et où sont les bureaux de RFI et France 24 d'ailleurs. Pour questionner nos invités ou pour témoigner, si vous habitez dans une ville qui commence à être ultra connectée et dans une ville qui nous promet une autre vie, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. N'attendez pas la fin de l'émission, vous pouvez questionner nos invités en direct dès maintenant. 33 1 84 22 71 71. Éric Le Gall, je veux dire que c'est très rare de commencer une émission 7 milliards de voisins où il n'y a quasiment pas de messages sur Facebook, mais pour une raison en fait très simple, c'est que personne ne sait vraiment ce que veut dire le concept de ville intelligente, à commencer par la France où j'ai vu dans une enquête que près de la moitié des Français ignorent totalement ce que ça veut dire ville intelligente. Alors peut-être qu'on peut commencer à expliquer de quoi parlons-nous, Éric Le Gall, chez vous, dans votre ville, à Issy-les-Moulineaux, est-ce que les habitants savent ce que c'est qu'une ville intelligente?
Alors, je ne suis pas sûr qu'ils savent précisément ce qu'est une ville intelligente. Ça revient du mot « smart city » que les Anglais nous ont importé il y a quelques années maintenant. Mais en fait, ce qui est important, c'est d'imaginer que c'est une nouvelle vague de la révolution numérique que nous vivons depuis une vingtaine d'années. À ICI Moulineaux, ça fait très exactement 20 ans cette année que nous avons ouvert notre premier point d'accès gratuit à l'Internet dans nos médiathèques. Mmh. Et depuis 20 ans, on a accompagné cette évolution avec la population, petit à petit, pas à pas, et à chaque fois on a vu les services s'améliorer, grandir, s'élargir. Et ce qui fait la différence avec le concept de ville intelligente ou smart city par rapport à la ville numérique, c'est que ça s'est élargi sur d'autres secteurs. C'est-à-dire que c'est plus seulement l'accès à la culture, l'accès à l'information, c'est le fait de pouvoir être plus efficace en termes de transport, comme vous l'avez dit, ou en termes d'énergie. Donc on a de nouveaux pans de la société en fait qui sont concernés.
Et puis pour des choses très très simples de la vie quotidienne, je crois qu'à Issy-les-Moulineaux, on n'a pas besoin d'une carte de parc-mètre. Alors pour expliquer aux auditeurs, le parc-mètre, hein, c'est quand on se gare dans la rue, il faut bien c'est une forme de taxe, hein, finalement. On n'a pas besoin d'avoir une carte et en général on l'a perdue, on ne sait pas où elle est. On peut le faire directement avec son smartphone.
Tout à fait.
Ça c'est depuis 6 ans, hein, chez vous.
L'idée, ouais, c'est ça. Depuis 6 ans, on peut payer son parking par téléphone mobile. Comme on peut aussi réserver des places de centres de loisirs pour ses enfants, payer la cantine de l'école ou tout un tas de choses qu'on peut faire avec un téléphone aujourd'hui.
Oui. Gérard Wolf, ben justement, quand on parle de quelles sont les villes et les pays concernés, payer la cantine avec son smartphone, les Africains savent de quoi on parle, parce que dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, on paye déjà sa facture d'électricité avec son smartphone et d'autres types de factures d'ailleurs.
Les Africains sont en avance sur l'Europe en matière d'utilisation des smartphones. Savez-vous d'ailleurs que une des raisons pour lesquelles les Africains ont pu réussir à endiguer l'épidémie d'Ebola, c'est grâce au message de prévention qu'il y a eu sur smartphone. Et donc, nous sommes très confiants, les industriels français, sur le fait que la ville, et je pense qu'effectivement le mot intelligente, est un peu dévoyée dans cette affaire. La ville connectée, on va dire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à comprendre aujourd'hui pour les Africains qui font beaucoup de choses sur leur smartphone que pour des Européens.
Là, vous n'êtes pas en train de dire aux auditeurs en Afrique subsaharienne qu'ils habitent dans des villes connectées,
non,
néanmoins.
Non, je suis en train de leur
dire que... Vous allez déclencher le fou rire.
Non, je ne vais pas déclencher le fou rire, je vais déclencher, j'espère, un espoir. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, oh là là, ces trucs-là, ce n'est pas pour nous, parce que c'est pour les villes européennes ou les villes des pays développés qui sont riches, et où ils ont de l'énergie tout le temps, et où ils ont de l'eau, et où ils ont des traitements des déchets, toutes choses qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas assez, je suis en train de leur dire, c'est vrai, mais le système intelligent va vous aider à aller plus vite pour rattraper le retard que vous avez.
Sauter l'étape du téléphone fixe pour passer à l'étape du téléphone mobile, par exemple.
Exactement.
Alors, ceci dit, le chemin à parcourir est tout de même assez long. Si on parle là des villes ultra connectées aujourd'hui, à quel pays vous pensez, par exemple? En Europe, l'Europe du Nord?
Alors, l'Europe du Nord est connue pour être très connectée, en particulier la Scandinavie. Mais vous avez aussi en France de beaux exemples assez réussis. La vérité, c'est quoi? C'est que, d'abord, la ville intelligente, vous le disiez, il n'y a pas beaucoup de témoignages, parce que les gens ne savent pas ce que c'est. C'est en fait tout ce qui permet d'avoir une ville à la fois plus économe, une ville plus transparente, et ça, je pense que nos auditeurs, ça leur fera plaisir, parce que la transparence, ça veut dire que tout sera sur informatique. Et donc, l'informatique ne ment pas. L'informatique, c'est le recueil de tout ce qui existe. C'est une ville dans laquelle on peut avoir plus de sécurité, plus de connectivité, plus de mobilité et plus de gestion intelligente, pour le coup, c'est-à-dire conservatrice.
Est-ce qu'on peut redonner quelques exemples, là? Parce que finalement, on a parlé d'inscrire ses enfants à la crèche via son smartphone, de payer sa place de parking. Est-ce qu'on peut redonner des exemples qui concernent les habitants d'une ville dans leur vie quotidienne?
Très concrètement, par exemple, lorsque si vous habitez un appartement à Essil-Moulineau, vous avez ce qu'on appelle la domotique, c'est-à-dire vous avez un écran à la maison qui vous permet de réguler votre température par pièce par pièce, en fonction évidemment de l'heure que vous souhaitez, et surtout de suivre l'évolution de votre consommation énergétique. Ça veut dire que vous pouvez agir pour baisser par exemple la température d'un ou deux degrés et vous allez tout de suite comprendre combien vous économisez en termes d'euros. Et ça, rien que ça permet de diminuer quasi instantanément de 10% la consommation énergétique. Ça, c'est très concret.
Donc, idem pour la climatisation, bien évidemment.
Ça, c'est effectivement, mais ça rentre dans la même logique, puisque en régulant, en fait, la technologie, ce qu'elle permet, c'est d'informer ou de donner plutôt la bonne information au bon moment à n'importe quel individu. Et chaque individu peut du coup agir. Il peut agir pour réguler sa consommation énergétique et donc faire des économies, qui contribuera évidemment aux économies globales. Il peut agir aussi pour éviter d'entrer dans des embouteillages, donc de réduire la circulation automobile, donc de réduire la pollution atmosphérique. Enfin, on imagine bien que ça a des conséquences énormes. C'est pas juste un gadget pour jouer.
Sur les embouteillages, justement, qui sont vraiment le problème le mieux partagé dans les grandes villes du monde, et d'ailleurs pas si grandes que cela, pas forcément des villes surpeuplées, il suffit d'aller par exemple à Abidjan. Mais est-ce qu'on a des projets de villes intelligentes ultra connectées qui ont réussi à réguler les embouteillages aujourd'hui?
Vous avez, alors, pour vous donner pour répondre très concrètement, Lagos. Lagos aujourd'hui, il y a
Nigeria,
un projet qui a été mené déjà, qui va évidemment encore se poursuivre parce que c'est une mégapole énorme. Mais aujourd'hui, la mobilité est déjà gérée de manière connectée, c'est-à-dire que vous pouvez savoir quand vous avez un bus, combien de temps ça va prendre pour aller de tel point à tel point, avec des distances qui sont énormes.
Vous pensez au projet bus rapide transit, là, qui sont des bus qui se suivent à intervalles très serrés,
déjà,
comme ça.
Ça commence déjà, mais alors c'est pas étendu à l'ensemble de cette mégapole, mais ça commence, et c'est très 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 concret. Je vous donne un autre exemple. À Abidjan, on a travaillé maintenant depuis un moment entre les entreprises ivoirienne et les entreprises françaises, et on est, alors c'est pas installé encore, mais ça va se faire très rapidement, exactement dans les mêmes conditions. Et je pense que c'est des exemples comme ça qui montrent que on est à l'aube d'une vraie révolution et qui va marquer la vie quotidienne des habitants, en particulier pour sortir, point qu'on n'a encore pas évoqué, des bidonvilles qu'on a partout. et qui sont la plaie de nos villes en Afrique.
Les villes accueillent la moitié de la population mondiale à l'heure actuelle. En 2050, ça sera 70% de la population mondiale qui sera hébergée dans des villes. Alors, est-ce que les villes intelligentes seront obligées de devenir intelligentes finalement pour rester vivables? Ville intelligente, ville durable, même combat. On en parle avec vous, bien sûr. N'hésitez pas à nous téléphoner pour interroger nos invités. 33 1 84 22 71 71. Who knows what hides behind these great clouds, coercing men to bear frowns, when even fake clowns eventually bow low to the baselines that cover me like shelter for the homeless. From vagrant to venomous microphone pest, pause only when my clothes rest, so foot in front of foot, my frame progress. Game of life and death, forced to maneuver past the grotesque. Dried maggots, grave digger till nails, metallic tasting, iron bed spring, sleeping late, early waking, warm street corners, lay bodies at the coroners. The bluebird of happiness, tuning to step followers, black summer spirits through a male goat's horn. Ain't the cheese, be warned, I'm a spiteful woman, so don't scorn. In the darkness, the light seeks out the target, and I'm starving for it. Gorilla stars like Darwin, with a voice like a thunderstorm. This ain't no summer breeze, this golden city's dead like autumn leaves. Adrenaline, but still I breathe, exhaling smog through the chest, when smoke makes my eyes bleed. The colors of polluted sunsets, perched high on my mental complex, you get a crow's nest, separating severed heads from bloody necks.
Can you grasp that he would be? I know it sounds weird after all these years of poor indoctrination, but I specialize in language. And it's fascinating.
Knowing the light, I remain in the dark. Insane sparks fire me up like a rocket discharged, making history of these carbon copycats. Protect my origins, I'm all foundations and blueprints like architects. Let me lay the plan flat like the dark ages concept of earth. Inverted thinking, tongue spinning, rhyme stars in reverse, dodging evil and schisms. My gun speaks, stays eloquent. This that grindhouse shit, there's no damsel in distress. I'm from a line of hard chickens that flex their necks, astounding with the intellect, compulsive, never miss a step. Eggheads trying to box me into cardboard cardings, I'm heartless. Rip mics in the name of carnage, but this reality's boring. I count the hours, more sick than tired kids, more thick than I was. One more hit for the downers and climbs.
Ça vient d'Afrique du Sud, Yugen Black Rock, House of Ravens, direction Singapour maintenant. Nous rejoignons notre correspondante à Singapour pour RFI. Bonjour Karine Auton.
Bonjour.
Rendre Singapour intelligente, c'est carrément l'idée d'une smart nation énoncée en priorité par le gouvernement singapourien, c'est ça?
Oui, en fait, c'est une vraie orientation nationale depuis le mois de novembre dernier ici. Une agence dédiée à la construction de cette ville intelligente a même été mise sur pied. Alors, pour vous situer l'importance, ici, ça rappelle l'objectif que s'était fixée la cité-État dès son indépendance en 65, devenir une métropole en 10 ans. Elle avait alors urbanisé à tout va. Cette fois-ci, elle se donne 10 ans pour devenir cette smart nation dont vous parlez. Alors, elle robotise, automatise, collecte les données à l'envi. L'objectif, c'est de se hisser au même rang que New York, San Francisco, Londres, Shanghai ou Sydney.
Et pour cela, Carrie, il faut automatiser. Vous le disiez, quels sont les domaines concernés?
Eh bien, écoutez, les transports publics, c'est stratégique ici déjà. Alors, pour aborder la Smart Nation, ça faisait sens de les aborder par là. Comment faire gagner du temps aux usagers concrètement? Eh bien, il faut observer les données, les horaires d'arrivée aux arrêts, les taux de remplissage des bus, etc., pour voir si on ne pourrait pas imaginer un voyage en bus autrement, en souhaitant un arrêt qui n'intéresse personne, par exemple, en prévoyant des bus directs pour les dessertes les plus populaires. La compagnie des transports publics a ainsi dévoilé tous les enseignements chiffrés concernant une ligne de bus et a proposé aux résidents de Singapour de pouvoir les analyser pour voir comment mieux faire. Alors, il y a aussi un autre domaine par lequel Singapour essaie de construire sa ville intelligente, ce sont les services aux personnes âgées et à la santé, histoire un petit peu, si vous voulez, d'anticiper le vieillissement de la population. Alors, quelques habitants se sont prêtés au jeu, sont un peu des cobayes, ils ont laissé installer des capteurs dans leurs appartements. Ces capteurs permettent de détecter tout changement de routine et donc de faire intervenir les voisins du coup pour voir s'il n'y a pas eu d'accident, si jamais justement un changement de routine est détecté. Alors, ce n'est pas bête du tout, vous me direz, mais bien sûr, tout cela demande à être infiné. Alors, je peux vous assurer qu'une vieille dame, l'une des personnes testées, a été furieuse d'être dérangée par sa voisine, qui avait été alertée par le système, le jour que cette dame, justement, ait décidé de prendre une douche pendant une heure. Donc, le système s'est mis en alerte, la voisine avait été alertée, et puis...
Tout le monde a cru qu'elle avait un accident, c'est ça. Tout s'était déclenché. Singapour a désigné deux zones de test dans la ville. De quoi s'agit-il?
Alors, dans ces quartiers, en fait, on teste de nouveaux services connectés. Un parc de véhicules sans chauffeur, par exemple, permet de transporter les usagers sur des trajets. Donc ça, c'est idéal pour se rendre de la maison à l'arrêt de métro, par exemple. Mmh. Il y a des capteurs sur les poubelles qui alertent quand celles-ci sont pleines, des capteurs le long des trottoirs qui mesurent le niveau de montée des eaux. Nous sommes en pays tropical, donc il pleut énormément ici. Et alors, ces capteurs sur les trottoirs, tenez-vous bien, ils peuvent envoyer des messages directement sur Twitter. Donc, on sait exactement quand il y a un risque d'inondation, par exemple. Les équipements ménagers aussi bien intelligents. Imaginez éteindre votre clim à distance via votre téléphone. Les Singapouriens en rêvent. Est-ce qu'ils vont le faire? On va voir. Et puis, Singapour ne s'en cache pas. Elle collecte tous ces renseignements pour devenir une place de marché sécurisée en matière de données. Ça, c'est quelque chose qui va être un gros enjeu pour l'avenir. C'est-à-dire qu'elle est prête à ce que les données s'échangent pour que les entreprises sachent qui consomme quoi et qui a besoin de quoi.
Et quelle est la stratégie de Singapour pour développer ces initiatives?
Alors, elle regarde beaucoup ce qu'il fait ailleurs et figurez-vous que les technologies françaises sont plutôt bien vues. La Chambre de commerce française ici a monté un comité qui dialogue avec le gouvernement et pousse les innovations de Blanc Rouge. Alors, les plus grands dons de l'énergie, de l'environnement, de la défense, qui font pas mal de modélisation sur ordinateur, étaient à Singapour d'ailleurs la semaine dernière. Des assureurs, eux, vont réfléchir demain, par exemple, à comment réduire les risques liés à l'urbanisation. En fait, c'est tout des idées françaises qui sont à Singapour. Et puis, comme je vous le racontais avec l'histoire du bus, Singapour prend plus de données accessibles parce que les citoyens s'en emparent et tentent de trouver des solutions de leur côté aussi. Ça n'a l'air de rien, mais en fait, les usagers, les citoyens, ce sont des composantes très importantes de la notion de ville intelligente. La Smart Nation se doit d'être participative.
Donc, rendre accessibles toutes ces données tout de même, est-ce que ce n'est pas dangereux, Carrie?
Alors bien sûr, c'est la crainte de tout le monde, hein, que les données ne soient plus anonymes. Singapour a renforcé du coup la surveillance numérique en créant une agence de cybersécurité au début de cette année. Et tout aussi préoccupant, en fait, ce sont l'impact et les effets négatifs possibles sur la santé de ces nouvelles infrastructures qui se multiplient pour modeler la vie intelligente. Est-ce que tous ces capteurs dégagent des ondes? Est-ce qu'il y a quelque chose sur nos corps? Et pour l'instant, tout cela n'est pas du tout encore mesuré, surveillé.
Merci beaucoup, Carrie Notten, en direct de Singapour. Il sera bientôt dans 3 minutes, 18h30. Désolé les voisins pour la ligne téléphonique de mauvaise qualité. Je crois pas que ça vienne de Singapour, mais plutôt de nos opérateurs à France Média Monde. Merci beaucoup. Réaction Gérard Wolf, Éric Le Gall. Est-ce qu'on est encore très loin de ce qui est décrit par Carrie Notten à Singapour, par exemple en France, dans certaines villes françaises ou en Europe?
Ah ben, Éric parlera sûrement mieux de moi des villes françaises, mais en tout cas, dans d'autres villes européennes et alors dans les villes africaines, on est évidemment encore très loin. Mais il faut se rappeler que le cas de Singapour est très particulier parce que c'est une ville qui a intégré dès sa naissance pratiquement, c'est-à-dire dès son indépendance, toutes les zones de modernité, toutes les méthodes de modernité.
Qui a investi d'emblée sur la technologie.
Qui a investi en université, qui a investi en technologie, etc. Donc on parle de la même chose. En revanche, ce qui est semblable, c'est les effets. Alors, pour nos auditeurs, ceux dont on parlait tout à fait au début en disant « mais tout ça c'est un rêve, on leur parle pas ». Sauf que quand on va économiser de l'eau sur sa douche, quand on va avoir une possibilité de prévenir s'il y a un risque d'inondation, demander à nos auditeurs dans les différentes villes, et rendre la ville plus, alors c'est une des composantes de l'intelligence, plus résiliente, c'est-à-dire mieux résistante à des phénomènes d'inondation, à des phénomènes qu'on connaît, de naturels, de risques naturels, là ça va leur parler. Et c'est des choses qui sont déjà en œuvre à Singapour.
Éric Le Gall.
Oui, Singapour est un cas particulier parce qu'ils ont un temps d'avance.
On aurait pu citer aussi Incheon en Corée du Sud.
Oui, tout à fait. Ben, en fait, l'Asie, d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que la Smart City, c'est le début d'un phénomène. On est encore à l'aube. Il ne faut pas s'imaginer que toutes les villes occidentales se sont modernisées d'un seul coup grâce à l'effet de la connectivité. Mais tout y travaille, y compris en Asie notamment, parce que nous sommes jumelés avec deux villes chinoises. Et en Chine, il y a plus d'une centaine de villes chinoises qui aujourd'hui sont en train de déployer des projets de Smart City.
Justement, on va y revenir. Il n'y a pas que Shanghai, d'ailleurs. Gérard Wolf et Éric Le Gall, vous restez avec nous. Qu'est-ce qu'on peut attendre des villes intelligentes? Faut-il aussi s'en inquiéter? Vous nous appelez, si vous le souhaitez, les voisins, les voisines, au 33 1 84 22 71 71. Nous rendons l'antenne pour le flash et on se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes maintenant.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons des villes intelligentes aujourd'hui, ultra connectées, équipées de capteurs qui fournissent en temps réel des informations, surtout quantitatives, il faut bien le dire, sur tous les sujets de la vie des habitants, transport, voirie, énergie, bâtiments, espaces verts, loisirs. Donc effectivement, en principe, nous sommes tous concernés dans notre vie quotidienne, même si cela reste encore un peu virtuel et abstrait, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous redonne quand même notre numéro de téléphone si vous avez envie de consulter et dialoguer avec nos invités. 33 1 84 22 71 71. Et Gérard Wolf, vous êtes dans le studio des 7 milliards de voisins. Vous vous occupez entre autres des villes intelligentes, durables, au MEDEF International, qui est le grand syndicat des patrons en France. Et puis vous êtes aussi accessoirement l'ancien directeur international d'EDF. Donc vous connaissez bien la problématique de l'énergie. Éric Le Gall, vous êtes directeur d'ICI Média, qui est le service qui s'occupe à la mairie d'ICI Les Moulineaux, donc de toute la connectivité de la ville. Et on le verra, cette petite ville hein, dans laquelle nous sommes, puisque notre immeuble de France Média Monde est bien basé à ICI Les Moulineaux, donc c'est une banlieue qui touche, une banlieue huppée qui touche Paris, est déjà assez connectée. Je vous lis des messages qui nous sont parvenus sur les réseaux sociaux. Bertrand à Marseille. Comment ces villes intelligentes apporteront-elles des réponses en matière d'énergie, d'accès à l'éducation, à l'habitat? Comment des smartphones peuvent régler tous ces problèmes? Qui veut répondre? Gérard Wolf?
Peut-être, oui, sur l'énergie. Alors là, c'est peut-être l'exemple le plus simple d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que dans ces villes, par parenthèse, juste pour donner un ordre de grandeur pour Bertrand, mais pour tous nos auditeurs, aujourd'hui, la population urbaine en Afrique, c'est 500 millions de personnes, la moitié des habitants d'Afrique. Demain, en 2040, c'est trois quarts des 2 milliards qui seront, c'est-à-dire qu'il y aura 1,5 milliard. C'est-à-dire qu'on va tripler la population en 30 ans. Le seul moyen de gérer ça, et notamment l'accès à l'énergie, pour reprendre la question de Bertrand, c'est de passer à des systèmes où on fait de la gestion fine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là on revient à mon ancien métier, on fait d'abord de la maîtrise de la demande d'énergie, c'est-à-dire qu'on est capable de faire attention à ce qu'on consomme. C'est la première des... Il y a déjà pas beaucoup d'électricité installée en Afrique, alors le peu qu'il y a, il faut déjà la sauvegarder. On reprend toujours l'exemple de la lumière qu'il faut éteindre, ou de la plaque qu'il faut éteindre, ou de ce qu'on veut, mais c'est ou de la télé qu'il faut éteindre. Mais vous savez, si vous allez
stocker l'électricité dans des bâtiments à l'heure où on n'en consomme pas pour l'utiliser plus tard, à l'heure où tout le monde va en vouloir, par exemple, hein, ça peut être c'est ça aussi l'intelligence de la domotique.
Les townships à Johannesburg, moi j'y ai été plusieurs fois et je peux vous dire que on a commencé avec Eskom à l'époque, la société nationale sud-africaine, on a commencé à faire des programmes de maîtrise de demande de l'énergie. L'Afrique du Sud, où il y a aujourd'hui des problèmes terribles de coupure. Mais il faut savoir que, en un an, à travers les programmes de MDE, avec l'électricité disponible, on avait réussi à diminuer de 18% le temps de coupure, donc d'augmenter la présence de 18%, si vous voulez, la présence d'électricité, simplement par des simples méthodes de MDE, maîtrise de la demande d'énergie. Et ça se fait typiquement encore mieux par smartphone. Voilà un exemple très concret pour répondre.
C'est-à-dire, ça participe aussi à changer les comportements.
Bien
donc,
sûr, absolument.
Les comportements humains, on est bien d'accord. Une machine qui régule loin des comportements humains.
Non, c'est pas Big Brother décide pour vous. C'est vous qui décidez, c'est vous qui gérez votre propre système. Sauf que ça vous dit, monsieur, attention, vous êtes en train de faire tel type de consommation, et donc vous faites en train de faire tel type de dépenses.
Oui.
Parce que votre smartphone, je pense que le représentant d'ici le Moulineau le dira mieux que moi, mais il vous dit combien vous payez.
Donc sur l'énergie, c'est clair que la ville intelligente a quelque chose à apporter.
Ah oui, c'est très concret d'ailleurs. Mais on n'est pas en train de construire la ville assistée par ordinateur, hein. On reste toujours en train de moderniser nos villes où des hommes et des femmes vivent, travaillent et ont des loisirs. On fait simplement que moderniser des pratiques, que leur fluidifier les déplacements. L'histoire de l'énergie, c'est probant parce que quand vous recevez sur votre smartphone tous les jours l'état de votre consommation énergétique, j'allais presque dire l'état de votre facture d'électricité.
Comme la météo, finalement.
Un peu comme la météo, exactement.
Ça peut calmer,
exactement.
C'est ça.
En tout cas, ça vous responsabilise, c'est-à-dire que vous êtes capable de savoir, parce que vous agissez, qui a une conséquence. Et ça, c'est nouveau, parce que c'est pour ça que je parle que c'est important l'individu. C'est-à-dire que l'individualisation des services est extrêmement importante, parce que auparavant, on dit toujours, bon, mon acte tout seul, isolé, ça changera pas le monde. Eh bien, si, parce que là, vous vous rendez compte que votre acte isolé, il change d'abord votre vie quotidienne à vous, et évidemment, multiplié par autant de...
Bon, mais pour poursuivre la question de Bertrand sur l'accès à l'éducation, l'accès à l'habitat, la ville intelligente, que peut-elle?
Mais l'accès à l'habitat...
Ça rendra pas les élèves plus intelligents?
Ah ben, on rendra les plus élèves plus intelligents. Si, on rendra les élèves plus participatifs. Un mot là-dessus. Le problème de la ville qu'on dit intelligente, c'est mieux, en effet, de dire smart city ou de dire ville durable. Pourquoi? Parce qu'on prépare un système de long terme. Et l'accès à l'éducation... D'abord, l'éducation, elle vient aussi par les tablettes, par ce que vous voulez. Mais la vraie éducation, c'est justement l'éducation à la citoyenneté de demain. Et pardon pour Bertrand, mais si je me replace en Afrique, ça répond aussi à la question de Bertrand. Le vrai sujet, c'est quoi? C'est de préparer la génération qui arrive à gérer correctement leur citoyenneté urbaine. Je prends juste un exemple, pour pas faire trop long. Kampala, aujourd'hui, il y a...
Pardon ? En Ouganda,
il y a 3 millions, un peu moins de 3 millions d'habitants. Il y a une maire exécutive, c'est-à-dire en fait une directrice générale des services, qui s'appelle Madame Muzizi, qui est très connue sur le continent africain, qui a décidé de prendre en main le flux avant de prendre le stock. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a 120 000 habitants de plus, vous m'entendez bien, 120 000 habitants de plus par an à Kampala. Ça, c'est du flux. C'est du flux jeune. Et elle a décidé, avec tous ses services, et ils sont en train de le faire, et les entreprises françaises m'ont aidé, de gérer ça en termes d'éducation à la citoyenneté urbaine. On consomme moins d'élec, on consomme moins d'eau, on consomme mieux, on fait attention au transport urbain, etc., etc. Et ça participe de l'accès à l'éducation.
Donc grâce à des capteurs qui informent les habitants en temps réel.
Oui,
toujours
sur leur smartphone. Les smartphones, ils sont déjà là en Afrique.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons un auditeur qui nous appelle de Lausanne en Suisse. Bonjour Osni.
Bonjour Emmanuel, bonjour aux auditeurs.
Nous vous écoutons.
Alors, moi, je voudrais juste dire que Lausanne, la ville de Lausanne, est en train d'entrer de plein pied dans ce concept de ville intelligente. Et pour prendre juste quelques aspects de cette entrée, je prendrai par exemple sur le secteur des transports urbains. Actuellement, à Lausanne, pour les transports lausannois, l'on peut payer son ticket de métro ou de bus à partir de son smartphone.
Oui.
Ce qui ne se faisait pas avant. Ça fait un gain de temps et une économie des papiers, d'énergie, et pour tout le monde, aussi bien pour la compagnie que pour les citoyens. Ça veut dire que vous pouvez, au moment où le bus arrive, entrer, au lieu de vous mettre dans la file pour acheter le ticket, vous entrez dans le bus, vous envoyez un message au 450 avec l'option choisie. Si c'est abonnement journalier, vous recevez tout de suite un message et qui débite sur votre téléphone. Et si vous êtes à court de crédit, vous pouvez appeler votre frère à la maison, il achète avec son smartphone et il vous transfère le message. Dès que le compteur arrive, vous lui montrez et votre ticket est valable. C'est-à-dire un ticket...
Donc il y a eu finalement du transfert financier via le smartphone, là, dans ce que vous décrivez. Parce que pendant longtemps, ça ne pouvait se faire que sur le continent africain, les transferts financiers via les smartphones. Mais là, finalement, avec un compte de ce type sur les transports urbains, c'est arrivé en Suisse.
Oui, c'est comme un type de transfert financier, puisque la compagnie de transport public, transport de l'Ouest, récupère cet argent qui est reversé par les compagnies de téléphonie mobile directement à la compagnie de transport.
D'accord. Mais alors vous, Osni, vous êtes originaire d'un pays sur le continent africain ou pas du tout?
Oui, tout à fait. Je suis originaire du Cameroun. Alors, et je suis à Lausanne depuis déjà très longtemps et je vois ces évolutions. Il y a même des poubelles qui ont été installées dans le coin de rue qui vous saluent au passage. Et quand vous y mettez un bout de papier, ils vous remercient et vous encouragent à vous comporter de manière durable.
Ah oui, d'accord. C'est la poubelle qui parle et qui vous remercie. Mais justement, ces innovations que vous venez de citer, elles sont imaginables pour vous dans votre pays d'origine, le Cameroun ?
Oui, tout à fait, mais il faut vraiment du temps parce que il faut déjà certaines infrastructures bas déjà avant de pouvoir mettre sa machine. Donc à terme, il faut imaginer toutes ces solutions parce que déjà, ça colle au concept qu'on disait votre invité de ville smart city et de ville durable. Parce que déjà, par rapport à la poubelle, c'est pour le développement durable, la salubrité de la ville. Et pour l'achat des tickets, c'est justement le smart city. Ça, tout peut se faire avec le smartphone, on peut tout acheter et tout faire à peu près ça, quoi.
Restez en ligne avec nous, Osni, si vous souhaitez réagir. Éric Le Gall, la ville intelligente ultra connectée qui aurait un rôle de sensibilisation aussi, ben vous le disiez, bon, sur la consommation d'énergie, mais sur la gestion des déchets. Bon, aujourd'hui, par exemple, c'est vrai qu'en France, globalement, les gens ont progressé dans le fait d'être conscients qu'il ne faut pas jeter des papiers par terre. Néanmoins, c'est vrai que pour éduquer les jeunes générations, quand vous avez une poubelle qui parle ou qui interagit avec vous, ça peut nous obliger à aller plus loin.
Bon, en tout cas, c'est incitatif parce que c'est ludique et puis que c'est lié à la réalité.
Imaginer, je sais pas, des poubelles qui dénoncent ceux qui font les erreurs de tri. Vous savez, les mauvais citoyens qui ne jouent pas le jeu du tri et qui mettent avec le verre, du plastique et du papier.
Avec le numérique, on peut tout imaginer parce que tout est possible. Après, c'est à nous et aux décideurs politiques de veiller à ce que tout se fasse.
On est dans la déviance ou pas, justement?
On pourrait.
La poubelle intelligente qui dénonce les mauvais citoyens.
Oui, enfin pour moi, on est dans la déviance, parce que si on commence à utiliser le numérique pour faire de la délation, on n'en est pas sorti.
Certains y ont pensé, forcément.
Certainement. Mais c'est pas dans la culture, en tout cas, c'est pas dans la culture européenne, ça c'est sûr. Et en plus, j'ai eu très récemment un Américain, justement, qui me posait cette question de savoir si nous avions des applications mobiles qui alertaient les autorités s'ils voyaient un citoyen mal se comporter. Je lui répondais que c'était pas dans notre culture européenne d'appliquer ce type de service. Mais ça existe donc sur d'autres continent, bien évidemment. Mais si je prends l'exemple quand même sur les transports, c'est vraiment important l'histoire de durable et de la mobilité. Quand vous allez au restaurant le soir, vous passez aujourd'hui dans une grande agglomération comme Paris 20-25 minutes à chercher une place de stationnement. Aujourd'hui, nous, grâce au mobile, nous avons par exemple ouvert le parking de nos écoles, où il n'y a pas d'enseignants stationnés la nuit, évidemment, pour que le public puisse accéder à des places de stationnement supplémentaires. C'est-à-dire que grâce au mobile, on a pu faire des choses qui étaient impossibles auparavant.
Le parking s'ouvre en fait à distance.
Il y a des barrières. Ouais. D'abord, vous êtes inscrit sur le site et il y a des barrières. Et votre smartphone est une télécommande qui ouvre la barrière grâce à un code que vous avez reçu. Vous êtes identifié et surtout, vous trouvez cette place de stationnement. Ça, c'est des choses qui étaient impossibles à imaginer avant la technologie.
Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est une innovation qui est quand même plus communautaire, hein, pour le bien-être de tous. Le parking n'est pas utilisé la nuit par les enseignants, on va l'ouvrir aux autres.
Exactement.
C'est ça. En termes de, pour améliorer la gouvernance urbaine, qu'est-ce qu'on peut imaginer, Gérard Wolf, puisque on dit beaucoup dans les villes que, partout dans le monde, il n'y a pas un continent à stigmatiser plus qu'un autre, mais les villes sont aussi une gabegie dans leur gestion.
Oui, c'est vrai. Première chose sur la gouvernance, la ville intelligente n'existe pas sans ses citoyens. Éric l'a démontré à travers les exemples qu'il a pris pour la ville d'ici les Moulineaux. C'est-à-dire que le risque Big Brother is watching you est un risque qui existe, bien sûr, avec le numérique on peut tout faire, mais ça n'a pas de sens de faire une ville intelligente si elle n'est pas gérer, non pas, ça n'a pas de sens éthique, ça n'a pas de sens parce que ça, du point de vue informatique, numérique, si le titulaire de base ne gère pas son truc, eh ben, ça marchera pas. Donc, la première élément de gouvernance, c'est que ce sont bien les citoyens qui vont faire fonctionner la ville durable et pas un despote.
C'est pas un rêve d'ingénieur.
Donc c'est pas un rêve d'ingénieur
que je m'adresse, vous.
Oui, je suis ingénieur, je confirme. Mais non, justement, ça ne peut marcher que si c'est renseigné par les citoyens.
Mais il y a quand même plein de gens qui disent, est-ce qu'on peut piloter une ville comme on pilote un Airbus?
Mais la réponse est, heureusement,
il y aura toujours de l'imprévu, puisque c'est de l'humain.
Heureusement, c'est de l'humain. Mais par définition, comme dans un Airbus, il faut qu'on limite au maximum les risques. Là, je pense à la résilience, y compris sur des phénomènes naturels. Mais il faut aussi qu'on utilise au mieux les potentiels de l'Airbus ville que l'on a. Et aujourd'hui, la technologie nous permet de le faire. J'ajoute encore un élément, et après je me tais, sur la gouvernance, c'est la transparence financière. J'insiste là-dessus. Ça coûte cher, ça va coûter très cher, on en dira peut-être un mot. Des quartiers entiers dans des villes, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. ou de dollars ou de ce que vous voulez. Et donc, là-dessus, il y a une très forte mobilisation des bailleurs internationaux. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque des BRICS bientôt, etc. Tous ces banques mettent systématiquement maintenant dans leurs aides
une ligne
budgétaire pour les villes. Et dans cette ligne budgétaire, il y a nécessairement une composante sur la gouvernance propre de la ville, c'est-à-dire la transparence du financement, on va dire des comptes de la ville. Ce qui est un gros progrès.
Ce qui veut dire que, en théorie, les habitants pourront donc consulter les comptes de la ville en direct, les informations sur leur propre consommation d'énergie. Ça sera donnant-donnant, finalement. Gagnant-gagnant.
Exactement. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Et la plupart de nos interlocuteurs, que ce soit des maires, on va dire des maires au sens large, ça prend des formes différentes, ou que ce soit des chefs d'entreprise africains, sont extrêmement demandeurs de ça, pour montrer que justement...
Les services derrière, pas forcément.
Eux, ce qu'ils veulent, c'est montrer que justement, ça a un coût, mais qu'ils l'utilisent au mieux.
Un message d'Emmanuel à Cotonou, avec toutes ces histoires de villes connectées, est-ce qu'on ne va pas arriver à des robots policiers hyper informatisés ou autres inventions de ce type? Quand on sait qu'il y a, notamment aux États-Unis, des mouvements de contestation contre les smart cities qui se propagent, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, des associations qui cartographient les rues d'une ville sans caméra, histoire de provoquer, d'être un peu poil à gratter. Par exemple, à Issy-les-Moulineaux, comment ça se passe?
On n'a pas de robots policiers, je vous le confirme. En revanche, on a des robots qui sont à disposition de nos seniors dans les maisons de retraite pour leur permettre de faire des exercices physiques, par exemple, et donc des tâches un peu répétitives qu'un aide-soignant ne pourrait pas faire, enfin qui pourrait faire bien entendu, mais qui c'est plus simple de faire avec
un
robot.
Préférer un plus, vrai prof de gym, les seniors.
Non, parce que c'est un côté ludique. Non, détrompez-vous, parce que c'est un côté ludique que les seniors apprécient vraiment. Je peux vous présenter quelques centenaires d'Issy Moulineaux,
c'est ça.
Je pourrais vous montrer quelques centenaires d'Issy Moulineaux qui sont tombées amoureuses de leur petit robot Nao, et franchement, ça marche très très bien. Comme je vous le disais, tout est possible avec le numérique, mais c'est à nous, au pouvoir public, aux citoyens, de faire en sorte que ça ne se passe pas. Et la Smart City, la ville intelligente, elle n'est possible que dans un mode collaboratif, c'est-à-dire que on ne gouverne plus une ville comme on faisait auparavant. Mmh. Aujourd'hui, ça ne vient plus du haut, il faut associer les entreprises, les habitants, les associations, les écoles, enfin tous ceux qui vivent dans cette ville.
On a une question intelligente d'Abdel qui est à Montréal, qui est originaire du Bénin et qui nous dit: dans mon pays, il n'y a même pas de cadastre fiable dans les villes. Alors quand est-ce que ces villes intelligentes arriveront au Bénin? C'est vrai qu'en Afrique, par exemple, dans les villes africaines, il n'y a pas d'adressage, il y a des grandes campagnes pour arriver à cadastrer, à mettre en place de l'adressage, les adresses pour les postes.
De toute façon, on ne peut avoir, sur un sujet de la ville intelligente, on ne peut avoir que des questions intelligentes. La question est excellente et nous avons, dans un certain nombre de pays, une des premières demandes des autorités, c'est effectivement le cadastre. Aujourd'hui, on a des entreprises françaises, alors si j'en cite une, ça va faire un désastre chez les autres, mais on a des entreprises françaises qui sont très réputées en matière de cadastrage des villes. C'est indispensable pour commencer, effectivement, à y voir clair. Je vous invite à prendre contact avec les équipes des permanents, moi j'en suis pas, avec les équipes des permanents de MEDEF International qui vous donneront, je dis ça pour nos auditeurs en Afrique, qui veulent savoir quelles sont les bonnes entreprises. Nous avons des leaders mondiaux en matière de cadastrage et je rentre d'une mission, pour tout vous dire, au Zimbabwe, première mission française au Zimbabwe il y a 2 mois. Un des premiers sujets à lancer, c'est le cadastre.
Je vous rappelle le numéro de téléphone si vous souhaitez intervenir. Il nous reste quelques minutes. Appelez-nous vite au 33 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Très rapidement, je vous lis le message de Sylvie qui nous écrit de Grèce. Syros, les villes connectées n'ont-elles pas le risque d'être des villes maîtrisées dont les habitants sont eux-mêmes maîtrisés? Tant que je peux décider de mon utilisation de l'eau, à la limite, je veux bien. Mais quand ce sera Big Brother qui décidera de la durée de ma douche, je trouve cette idée bien inquiétante.
À ce moment-là, vous vous révolterez. C'est comme ça que ça se passe
dans
la vraie vie.
Sur les réseaux sociaux.
Non, dans la rue. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir d'inquiétude. Les technologies ne sont que des outils. C'est ce qui nous permet.
On peut toujours débrancher.
On peut toujours débrancher et on pourra toujours débrancher.
Vous nous le disiez il y a quelques minutes, Gérard Wolff, tout cela va coûter très cher. Vous nous parliez des grandes institutions internationales, des bailleurs, mais à l'échelle des habitants, y compris dans les pays du Sud, des impôts vont être levés et le sont déjà dans les pays développés. C'est ce qu'on appelle les impôts locaux. Ça va nous coûter combien, nous, dans question impôts locaux? Si on prend la ville d'Issy les Moulineaux comme exemple, où est-ce qu'on en est?
Pour vous contredire, ça, je dirais pas que ça coûte de l'argent, parce qu'au contraire, ça en économise.
Vous avez augmenté les impôts locaux comme toutes les villes ces dernières années.
Pardon, on a baissé les impôts locaux de 30% depuis qu'on a pris le virage numérique il y a 20 ans. Aujourd'hui, on paye moins d'impôts locaux qu'on le faisait il y a 20 ans.
Parce qu'on vous n'êtes pas dans la dérive française de tendance globale nationale à l'augmentation.
On a d'abord renforcé notre attractivité économique, donc on a fait venir de grandes entreprises comme vous.
Qui du coup diminue le coût des impôts locaux pour les habitants.
Exactement, et surtout, on a mieux géré. Prenez l'exemple de l'éclairage public. Ça représente 40% de la facture énergétique d'une collectivité locale. Si vous y mettez des capteurs pour réguler simplement l'intensité de l'éclairage, vous économisez de l'argent. Donc, et ça, vous multipliez ça sur tous les autres secteurs de la vie locale, et je vous assure qu'on économise au bout du compte.
Gérard Wolf, quand on voit que le marché global des smart cities, c'est 39 milliards d'euros en 2016, c'est ce qui est à peu près prévu. Est-ce que ça suffira de faire des économies sur l'éclairage public pour compenser toutes ces entreprises qu'il va falloir payer, à qui on va acheter des services pour mettre des capteurs partout?
Alors, je suis absolument persuadé que bon nombre d'auditeurs qui vous entendent se disent... effectivement, ça va coûter plus cher, mais il y a un bon nombre, parce que nous, on les voit quand on va sur le terrain dans tous les pays africains, qui nous disent, au moins, on payera des impôts pour voir quelque chose qui fonctionne. Ça, je l'entends à peu près chaque fois que je vais dans un pays africain. Bon, ceci dit, mettons à part cette remarque. Non, je crois que il faut être réaliste. Bien sûr, ça va coûter. Deux, il y a énormément d'aides, parce que tout le monde se rend compte que le sujet de la ville en Afrique est un sujet fondamental. Savez-vous, par exemple, que l'AFD... L'Agence française de développement, pardon, qui est un organisme qui, justement, travaille énormément sur ces questions de développement et avec qui nous travaillons, moi, vraiment, on a les meilleures relations avec eux, ils consacrent chaque année 2 milliards d'euros à la question urbaine. 2 milliards d'euros. Donc, d'abord, il y a des aides. Ensuite... il y a aussi des réaffectations. Je suis certain que dans la ville d'Issy les Moulineaux, mais c'est vrai à Abidjan, c'est vrai à Harare, c'est vrai à Lusaka, c'est vrai où vous voulez, c'est vrai à Johannesburg, ça je peux vous dire parce qu'on a beaucoup travaillé avec eux, il y a une réallocation des financements. Et le fait de faire venir des entreprises fait aussi payer par ces entreprises un certain nombre de services. Regardez la mobilité urbaine à Johannesburg, elle coûte moins cher parce qu'elle a été prise en charge par des entreprises.
Donc pas forcément plus cher donc pour les habitants.
Donc pas forcément pour l'usager final.
L'expertise française, on a de très bons ingénieurs en France. Comment sont positionnées là les entreprises françaises dans ce nouveau marché? L'Inde par exemple fait des déclarations aussi et dit on veut des smart cities chez nous pour les pays émergents.
C'est l'histoire de France qui parle, c'est-à-dire la reconstruction post Deuxième Guerre mondiale, qui fait que aujourd'hui, pourquoi est-ce que on a Veolia, on a Suez Environnement, on a EDF, on a ex-GDF Suez devenu Engie, pourquoi est-ce qu'on a toutes ces boîtes, pourquoi est-ce qu'on a Dassault Systèmes, Aegis, RATP, SNCF, Bureau Veritas et autres qui sont dans la ville et qui sont des spécialistes urbains depuis la planification urbaine à 30 ans jusqu'à la gestion des déchets, pourquoi est-ce que c'est des champions mondiaux? Parce qu'on a dû reconstruire la France. Et aujourd'hui, c'est ce qu'explique le président de la République, chaque fois qu'il va dans un pays où il y a un forum économique et que la question urbaine, en particulier en Afrique, vient sur le devant de la table, c'est qu'aujourd'hui, nous avons l'ensemble de la chaîne de valeur, pardon d'utiliser ce mot un peu compliqué peut-être pour nos auditeurs, depuis la planification amont jusqu'à la gestion aval de tous les utilities, c'est-à-dire notre vie quotidienne, l'eau, l'énergie, la santé, etc., etc. Nous avons la meilleure palette au monde, c'est pas du cocorico.
En même temps, pour développer des villes intelligentes, ça veut dire qu'il faut imaginer à quoi ressemblera et quels seront les besoins dans 15 ou 20 ans dans nos villes. Est-ce que ça, on est capable de le faire avec nos petits cerveaux aujourd'hui, avec le GAL? Vous y travaillez, vous, dans votre ville?
Oui, enfin, je veux pas parler de planification, mais quand même, on sait bien, effectivement, que l'urbanisation est de plus en plus importante. Le nombre d'habitants en ville augmente, vous l'avez dit. On a un espace qui se raréfie. On a une appétence ou une attention en tout cas portée sur l'environnement de la part des citoyens qui est de plus en plus précise et pointue et qui nous oblige du coup à trouver de nouvelles solutions. On a beaucoup d'enjeux comme ça qui font que on doit imaginer la ville de demain comme étant ultra connectée et ultra efficace.
Et en même temps, on le voit bien à la lumière des témoignages qui nous sont parvenus sur les réseaux sociaux ou au téléphone, c'est les auditeurs sont partagés entre méfiance, vigilance et espoir. Non, ça sera votre mot de conclusion ou pas ?
Ben mon mot de conclusion, c'est que plutôt que ville intelligente, je préfère dire ville durable. Pourquoi ? Parce qu'elle prépare le futur, elle fait moins peur. Dans intelligence, il y a intelligence au sens intelligence, c'est-à-dire le côté FBI, si je puis dire.
Oui.
C'est pas ça. La ville intelligente, c'est la ville durable, la ville qui est suffisamment intelligente pour se projeter dans l'avenir et mieux préparer ses citoyens de demain.
Ville ingénieuse, vous préférez, ce
oui,
que disent les Canadiens. Moins excluant aussi, parce que tout le monde peut être ingénieux sans éducation.
Bien sûr. Et parce que quand vous êtes dans une ville qui est au bord de la mer ou qui subit des inondations, eh ben si vous êtes dans une ville ingénieuse, c'est mieux.
Éric Le Gall.
Et ville collaborative aussi, parce qu'aujourd'hui, les citoyens ont les moyens, grâce aux technologies, de s'exprimer, de trouver de nouvelles solutions et de nous aider à rechercher de nouvelles solutions.
Ouais. Et alors, pour ceux qui n'auront pas de smartphone dans les années qui viennent et de connexion Internet, alors là, ça s'appellera l'exclusion. Ça l'est déjà.
Ça s'appellera l'illettrisme numérique et ça sera un vrai combat. Ouais.
Merci à vous, à tous les deux. Éric Le Gall, directeur d'ICI Média, ville d'ICI Les Moulineaux, Gérard Wolf, donc du MEDEF international, et vous vous occupez plus spécifiquement, en tout cas pour cette émission à laquelle vous avez participé, des villes intelligentes. Merci à vous, les voisins et les voisines, pour vos témoignages, vos interventions. Merci à toute l'équipe, Éléonore Krenik, Romain Dubrac, Jonas Malé-Solars et Sandrine Straram. Et quant à vos réactions, vous pouvez continuer à dialoguer sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, 7milliards@rfi.fr. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons des cadres expatriés dans les pays du Golfe et en particulier au Qatar, avec les mésaventures d'un entraîneur de foot. Adaptation et précaution, ce qu'il faut savoir et comprendre avant d'accepter un job dans ces pays. Merci de votre fidélité. À demain, les voisins et les voisines.